RCF.
Babylone, depuis la nuit des temps, bonjour, c'est Grand Angle aujourd'hui, en partenariat avec le monde de la Bible, alors ville mythique, mais aussi ville historique, berceau de civilisation, cœur battant de la Mésopotamie. Comment Babylone, disparue depuis deux millénaires, a-t-elle pu marquer l'histoire et l'imaginaire? En quoi la ville a-t-elle joué un rôle capital dans l'histoire de la Bible? Que sait-on? Que reste-t-il de Babylone? Eh bien, on en parle avec mes invités. Benoît Sagazan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Monde de la Bible. Dans ce numéro de rentrée, vous avez consacré donc tout un dossier à Babylone, mythique, historique, biblique, et puis aussi des tas d'autres articles qu'on pourra évoquer peut-être à la fin de cette émission. Laura Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, assyriologue, et vous avez consacré votre thèse à Babylone, ville du roi au premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez participé au dossier du Monde de la Bible, notamment en évoquant les jardins suspendus de Babylone ou la tour de Babel. Et puis vous nous parlerez de vos travaux. Ephrem Hazard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, dominicain, irakien, historien des religions. Vous pourrez nous expliquer bien l'histoire religieuse tumultueuse de Babylone, 40 siècles durant, et puis aussi nous donner des nouvelles de l'Irak dont vous rentrez, puisque vous y étiez encore il y a 24 heures. Babylone, depuis la nuit des temps, c'est le sujet, c'est le thème d'aujourd'hui, pour Grand Angle, et c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Ephrem Hazard, peut-être simplement, avant d'aborder le sujet historique, mythique de cette ville de Babylone, quelques nouvelles de l'Irak dont vous venez. Vous avez décollé d'Erbil hier.
Je suis rentré hier soir. La situation est instable politiquement. Je peux dire que l'Irak politique n'existe plus. C'est l'Iran qui gouverne l'Irak. Donc on a eu les élections le 12 mai. Il y a à peine une semaine, on a installé le président du Parlement irakien qui est très pro-iranien. On attend encore la nomination du président irakien qui devrait être toujours un kurde et puis un premier ministre qui devrait être un chiite. Vous imaginez cette installation par Paul Bremer en 2003 dans la nouvelle constitution a mis le pays dans la pagaille et c'est comme une bombe à retardement, donc il n'y aura jamais des ententes entre les Irakiens, entre les différents partis. Donc si j'évoque ça, parce que dans la rue, on sent cette pagaille, on sent cette déception, on sent cette désillusion, on sent cet échec politique et en même temps l'Irak, on ne sait pas où il va. Ainsi que les Irakiens, ils ne savent pas où ils vont. Pour les chrétiens, puisque je m'intéresse davantage, j'ai créé une association entre deux rives fin 2014 et j'essaie un peu de colmater les brèches. Je ne suis pas le seul, il y a énormément de ONG, associations chrétiennes occidentales. S'il n'y avait pas ça, aucun chrétien ne serait rentré chez lui pour restaurer leur maison. L'État irakien n'a pas d'argent à donner aux chrétiens ou aux musulmans ou aux yézidis, tous ces gens-là qui étaient victimes de Daesh en 2014. L'Irak n'a pas d'argent pour aider les Irakiens à restaurer leur maison. Voilà, si vous voulez, un peu le climat politique, social, sur le terrain. Je parle sur le terrain. Et on ne sait pas où on va, l'Irak où il va. Alors, ça fait partie de la géopolitique, vous savez.
Oui, une grande inquiétude sur le terrain dont
absolument,
vous témoignez.
Absolument, absolument, absolument. C'est un problème.
C'est difficile de voir l'avenir.
En plus de l'absence de toute l'infrastructure, l'eau, l'électricité. Moi, j'ai loué une petite maison pour mon association, que ça soit comme un bureau. Je devais chaque nuit, me réveiller vers minuit, à 3h, à 6h, 7h du matin, parce qu'il n'y a pas d'eau, pour vérifier si l'eau de la ville allait venir pour que je puisse allumer le moteur pour faire monter l'eau.
Ah oui.
Ainsi l'électricité. Donc vous voyez, donc ça c'est le problème quotidien. Alors les Irakiens ne vont parler que de ça. Ça veut dire, on parle, est-ce que votre quartier a reçu de l'eau ou pas? Est-ce que votre quartier a reçu de l'électricité? C'est, on occupe les gens de cette manière-là. C'est une manière de, un peu de paralyser les gens et de ne plus avoir leur dignité dans le quotidien et dans la pratique quotidienne. Voilà, si vous voulez, le climat.
Avant même de penser à l'avenir, il faut déjà
évidemment,
chaque jour
même avant
avoir
de,
l'essentiel.
Avant de penser même, peut-être on reviendra sur l'attitude de l'Église, de la hiérarchie. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe, déjà d'abord, je peux vous dire que l'un des articles de la nouvelle constitution irakienne créé et fondé par Paul Bremer, et je pense qu'aucun Irakien n'avait lu, parce que ça a été écrit à New York, par Paul Bremer et certains membres de l'opposition de l'époque contre le régime de Saddam. Il y a un article qui est contre les chrétiens carrément et contre d'autres minorités qui ne sont pas musulmanes. Qu'on reconnaisse dans les pays arabes que la constitution dans la plupart des pays arabes, sauf le Liban, que c'est l'islam qui est la religion de l'État, ça, il n'y a pas de problème. Mais que lorsque un parti politique ou une religion, une ethnie, va pratiquer quelque chose qui va à l'encontre de l'islam, c'est considéré contre l'islam. C'est d'ailleurs ce que Daesh a pu interpréter ça contre les Mandéens, contre les Shabaks, ça veut dire ici des chiites, contre les yazidis et contre les chrétiens, nous sommes des mécréants par rapport à l'islam. Alors sur le terrain, si vous voulez, on le sent, et récemment même, des injustices contre les chrétiens, par exemple, récemment même, il y a une semaine, on a limogé deux ou trois directeurs généraux chrétiens dans l'agriculture, dans la santé et à l'université. Donc ça veut dire de plus en plus, même cette région qui est la mienne de la plaine de Ninive et notamment Karakoch, au niveau ethnique et démographique, c'est la majorité chrétienne. Selon la Constitution, en principe, quand il y a une majorité ethnique et démographique issue d'une ethnie particulière, c'est cette ethnie-là qui doit gouverner la région ou administrer la région.
Mais ce n'est pas le cas.
Donc ce n'est pas le cas, par exemple, je vous donne. Lorsqu'il y a Daesh, l'université de Mossoul s'est transférée dans le nord de l'Irak, au Kurdistan, et notamment l'université de Karakoch. Donc la majorité, je peux dire 80%, c'était des chrétiens. L'Église a couvert ça, ils ont ouvert même dans des bâtiments que l'Église a loués. Et un chrétien qui était le doyen de la faculté de lettres a été pendant 3 ans quand même directeur de l'université. Au retour, il y a 1 an et demi, on a attendu et logiquement ça aurait dû lui, puisque déjà il a travaillé, il a même investi, il a même sauvegardé cette université. Et il y a 4 mois, on vient de nommer un chiite de Koufa, ça veut dire de Najaf, qui n'a rien à voir dans la région, et je peux vous donner des centaines de cas, que ce soit dans le sud de l'Irak, à Bagdad, que ce soit dans le niveau universitaire, au niveau de tous les niveaux, et c'est ça, actuellement on le sent sur le terrain, et que les jeunes sentent cette déception totale vis-à-vis de l'Irak et vis-à-vis des gouverneurs irakiens.
Merci Ephrem Azar de ce témoignage, de votre retour tout juste d'Irak. On sent la complexité de la situation et puis aussi une sorte d'embourbement peut-être.
Oui, alors ce n'est pas l'embourbement. À mon avis, comme autrefois au Liban, pendant la guerre du Liban, ce n'était pas que les Libanais faisaient la guerre, c'était les pays arabes et peut-être d'autres puissances qui poussaient les pays arabes à faire la guerre au Liban. Aujourd'hui, c'est le même cas. Donc, c'est des tensions entre surtout le monde sunnite et chiite, c'est clair. Entre l'Arabie et l'Iran, ça c'est évident sur le terrain. Et j'ai l'impression même que les Américains ont perdu la main. Ils ne peuvent plus même avoir le pouvoir et l'autorité sur ces deux axes. Et peut-être même pourquoi pas, on le sent. C'est eux-mêmes, les Américains, veulent susciter cette nouvelle guerre probablement dans la région entre les Iraniens et les Saoudiens. On le voit sur le terrain d'Yémen, puisque les Houthis, c'est des chiites et c'est l'Arabie et les Émirats qui payent toute cette guerre-là. Donc on le voit aussi en Irak aujourd'hui. Probablement, il y aura même une guerre entre chiites et chiites en Irak. C'est-à-dire l'aile irakienne, les vrais chiites irakiens qui sont pro-irakiens, pro-arabes, et vous avez l'autre partie chiite qui est carrément pro-iranienne.
Affaire à suivre, malheureusement. Mais bon, voilà, on va poursuivre l'émission avec, en remontant dans l'histoire, peut-être, on va pas avoir les clés, hein, de ce qui se passe aujourd'hui, mais peut-être comprendre aussi que, eh bien, c'est un terrain, un espace, la Mésopotamie, où il y a eu, beaucoup de tensions, de mouvements politiques, d'événements qui ont pu se dérouler, déjà. Benoît Sagazan, alors on commence toujours l'émission, on va pas la terminer tout de suite, on va commencer l'émission par justement comment vous avez choisi ce sujet. Hein. On sait que Monde de la Bible, c'est aussi une approche assez scientifique, hein, des données historiques, archéologiques. Vous aviez, c'était il y a plus de 20 ans, non pas tout à fait, 15 ans, fait un numéro déjà sur...
En 2004 exactement. Oui,
voilà,
exactement.
Sur Babylone. Et là, oui. À nouveau, ce sujet, il y a du nouveau alors.
Il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a une actualité, des coups de projecteur comme le frère Ephraim Hazard vient d'en parler, qui sont poignants pour nous. On a envie de savoir ce qui se passe sur place. On a envie de savoir comment vit et survit cette région qui est quand même l'un des berceaux de notre civilisation. Ce que je remarque en entendant toutes ces tensions étrangères, j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. Parce que même dans notre histoire biblique qui nous intéresse par rapport à Babylone, c'est un Babylonien qui exporte les Judéens, mais c'est un Perse qui leur permet de revenir
de rentrer chez eux.
Et puis il y a eu les conquêtes d'Alexandre le Grand qui aussi. Enfin, c'est un pays qui a souvent été soumis à des changements de gouvernement, à des changements, à des puissances étrangères, qui a été ballotté, qui a été déchiré à de nombreuses reprises dans son histoire.
Oui, en même temps, tout à l'heure, donc sur ce terrain-là, si j'évoque l'affaire entre l'Irak et l'Iran, Saddam a restauré Babylone, donc les années 70-80. Mais en fait, c'est dans l'idée aussi que c'est les Arabes contre les Perses, vous voyez, c'est dans cette idée. C'est-à-dire pour lui, c'est la fierté.
De réaffirmer
complètement l'identité
irakienne
et puis ce passé glorieux de Babylone. Mais en même temps contre les Perses, vous voyez, donc voilà, on revient toujours dans cette actualité.
Il y avait une autre actualité pour nous aussi, c'est que Daesh étant survenu en Iran, et puis les guerres précédentes aussi, avaient gelé beaucoup de missions archéologiques en Mésopotamie. Alors c'était un drame en soi, ce fut un tout petit peu une chance si on regarde le verre à moitié plein, c'est que ça a obligé notamment les chercheurs et les archéologues à beaucoup publier. Et du coup, il y a une somme de connaissances nouvelles, je ne sais pas si vous me contredirez, qui ont été disponibles pour nous en tout. Voilà. Et donc, c'est une revue d'origine, enfin, d'esprit scientifique, mais qui cherche surtout et avant tout à vulgariser tout ce savoir scientifique.
Et à expliquer au grand public.
Voilà, au grand public, ou du moins à ceux qui s'y intéressent.
Voilà, parce qu'en plus, les Babylones, on vient de le dire, il y a donc un essai par Saddam Hussein de faire revivre la cité, mais il ne reste plus
quelques photos.
Pierre sur pierre.
Il reste quelques pierres quand même, mais
alors,
très peu de choses.
Pas grand-chose. Cette région, il n'y avait pas de pierres, hein, c'était des briques.
Voilà, c'est
et la terre battue. Donc
la formule est un peu exagérée.
La fameuse ziggourat que j'ai visitée plusieurs fois, c'est des briques cuites. Donc. Et en même temps, bien sûr, ce qui attire aujourd'hui même les Irakiens, c'est quand même, on a, selon le mythe, c'est la maison d'Abraham se trouve là. Donc c'est ça, vous voyez.
Ça, c'est plutôt
à Our.
Oui, mais
oui.
Pas loin. Voilà.
Loin.
Oui. Pas loin,
la
vous voyez.
La ziggourat d'Our est saisissante.
Voilà, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cet enracinement, si vous voulez, de l'Irak, même actuel, mais aujourd'hui, on a oublié cette Babylone.
Voilà, et on la revendique. Alors, Benoît Sagazan, Babylone, il y a 4000 ans, plus de 4000 ans. Que la ville surgit et avec un certain prestige, un certain impact dans la région.
Je pense que Laura Cousin nous en parlera encore mieux, mais c'est vrai que c'est devenu une ville qui a dépassé même sa splendeur. Enfin, c'est devenu mythique. Alors, mythique, c'est très ambivalent en même temps. Hein. C'était une ville glorieuse, une ville incroyable, qui a séduit les Judéens d'ailleurs eux-mêmes quand ils ont été exilés. Donc, en 587, puis il y a eu trois fois d'exil en tout, en fait. Donc, il y a eu plusieurs exils. Donc, ils ont trouvé la ville incroyable. Hein. C'était une ville riche, une ville bien. D'ailleurs, elle était tellement belle et tellement riche, cette ville et cette région, que lorsque les Perses ont permis aux Judéens de rentrer, tous ne sont pas rentrés. Il est resté une communauté juive très importante et pendant très 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 longtemps, très longue. Et puis, c'était un drame idéologique, un drame psychologique pour ces Judéens. Et sans doute un drame qui nous a valu cette Bible que nous pouvons lire aujourd'hui. Maintenant, on en parlera peut-être plus tard.
Voilà, on reviendra sur l'histoire de la Bible et de Babylone. Laura Cousin, oui, cette ville mythique, mais historique en même temps, comment on arrive à faire la part de cette image de Babylone, ville-monde, hein, que vous écrivez même.
Oui, ville-monde, c'est un concept très à la mode en ce moment, mais oui.
Bah tout d'abord, la localisation de Babylone n'a jamais vraiment été perdue. Des voyageurs, dès le Moyen-Âge, s'y sont rendus. Alors, ils étaient plutôt à la recherche, justement, de la Babylone que l'on décrivait dans la Bible, voire dans les sources classiques. Donc, notamment à la recherche de la tour de Babel. Et ensuite, ces voyages se sont poursuivis même pendant la Renaissance. On a commencé à avoir des ébauches de fouilles archéologiques au XIXe siècle, donc avec des fouilles, bien des esquisses de fouilles françaises et anglaises, avant qu'il y ait vraiment les premières vraies fouilles archéologiques que l'on doit donc à la Deutsche Orientgesellschaft, donc des équipes allemandes menées par Robert Koldewey, et qui ont permis de dégager donc la Babylone archéologique, la Babylone historique, et qui est en fait le site du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc sûrement le site qui a été fortifié, agrandi, restauré sous le règne de Nabucodonosor II au 7e siècle, 7e, 6e siècle.
Donc une ville qui se déploie sur 2000 ans finalement.
Oui, même plus
que ça.
Parce qu'on la connaît, la première attestation en fait de Babylone, on la trouve dans un texte de 2500 avant Jésus-Christ, où on mentionne d'ailleurs le temple du dieu principal de Babylone, de son dieu Polyade, qui s'appelle Marduk, qui est à l'origine un dieu agraire. Et on sait donc à l'époque que Babylone jouait un petit rôle politique
dans la région
et était placé sous l'égide d'un gouverneur. Et donc déjà à l'époque, c'était une ville qui était plutôt, on va dire, d'un rang secondaire au niveau politique, mais qui était déjà bien placée
présente
dans sa région.
Vous avez parlé de la tour de Babel, c'est-à-dire que là on est entre mythe et réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez essayé d'expliquer ça dans la revue.
Oui, tout à fait. Donc ce qu'il se passe, c'est que donc en Mésopotamie, il y a des temples-tours, donc des tours étagées qui s'appellent en akkadien ziggourat et qui ont été prises comme modèle pour façonner le mythe de la tour de Babel. En ce qui concerne plus précisément Babylone, ce temple-tour a un nom cérémoniel, comme tous les autres temples de Mésopotamie. Il s'appelle Etemen Anki, ça veut dire temple fondement du ciel et de la terre. Et cette ziggourat était visiblement monumentale. Je pense qu'au sol, elle devait former un carré de 90 mètres de côté. Alors ensuite, les spécialistes débattent pour savoir quelle était sa hauteur. Est-ce qu'elle était égale également à 90 mètres ou est-ce qu'elle était plus petite dans un but de stabilité, comme d'ailleurs d'autres ziggourats comme celle d'Ur, par exemple. Au demeurant, on a tout de même maintenant, depuis quelques années, une représentation de la ziggourate de Babylone qui est conservée dans une collection particulière et où on voit en fait quelque chose de très intéressant. On voit donc sur une stèle une représentation du roi Nabucodonosor II qui est placé donc à côté de la ziggourate qui, donc on voit bien la façon dont elle est formée. La tour fait 6 étages et on a un temple au sommet qui accueillait d'ailleurs, dit-on, la chambre à coucher du dieu Marduk et de sa compagne divine, la déesse Tsarpanitum.
Ça veut dire qu'après, eh bien, ça c'est ce qu'on peut retrouver comme trace, mais après il y a l'imaginaire qui s'est gravé sur ces éléments.
Effectivement, donc notamment grâce déjà aux sources classiques qui nous ont apporté aussi une vision gigantesque de Babylone, mais aussi effectivement de cette tour. Et ensuite, on a effectivement la représentation dans la Bible de la tour de Babel, donc qui est un épisode fameux du livre de la Genèse et qui est un peu la démonstration de l'orgueil des humains.
Babel, Babylone, on en parle après la musique. Pas passer à côté de Babylone, tu déconnes. Bill Durham qui chante avec le groupe Trio Babylone. On en parle aujourd'hui. Babylone depuis la nuit des temps. On en parle avec Benoît Sagazan, Laura Cousin et Ephraim Hazard.
Grand angle, Christophe Hénin.
On a parlé des sources historiques de la tour de Babel, de l'interprétation après un peu plus grandiose, un peu plus fastueuse de cette tour mythique. Et puis ce passage dans la Bible simplement où il y a effectivement la prétention de l'homme à accéder au ciel. Ephraim Hazard, vous êtes aussi historien des religions, dominicain. Comment on peut lire encore ce passage de la Genèse ?
Il y a plusieurs passages, il n'y a pas que celui-là. Ouais. D'abord, les psaumes, il y a un psaume qui est complètement contre les habitants de Babylone, même fracasser la tête des Babyloniens. Ça, il est terrible ce psaume, chanté donc dans la Bible. Et vous avez beaucoup de prophètes, évidemment, peut-être parce qu'il y avait une image de cette Babylone extraordinaire que plus tard l'Apocalypse a repris, comme la Nouvelle Rome, etc. Mais surtout, moi j'aimerais bien insister sur cet épisode qui est dans la Genèse, sur la tour de Babel. On nous a enseigné, on a interprété comme quoi Dieu, lorsqu'il a vu que les gens allaient construire cette tour, bien sûr, il faut voir qu'il voulait probablement, comme ces gratte-ciels allaient, je dirais, rivaliser Dieu dans ce sanctuaire qui est le plus haut, arriver au ciel, n'est-ce pas, rivaliser Dieu. Mais en fait, Dieu a donné un cadeau extraordinaire à l'humanité. Au lieu que ces gens-là se concentrent et puissent simplement être entre eux, il leur dit non, maintenant je vais vous répandre partout, parce que c'est ainsi la vie, c'est dans la diversité qu'on peut communiquer et non pas lorsqu'on a un seul langage. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je comprends et arrive la Pentecôte alors avec les disciples. Ils parlent la langue de ces gens-là, vous voyez, c'est comme une continuité, ce beau cadeau, cette chance de l'humanité d'avoir entre eux ces multiples langages, qu'on puisse, à cause de cette diversité, s'entendre bien et qu'on puisse communiquer malgré cette diversité. Et j'enchaînerai parce qu'aussi pour le jardin Allez-y. D'Éden, lorsque Dieu va expulser Adam et Ève, on nous a dit, c'est une sanction. Alors que pour moi, c'est une chance lorsqu'il met les deux kéroubim devant la porte du paradis, il dit à Adam et Ève, mais vous ne pouvez pas vivre indifférencié, de rester dans l'utérus divin. Allez-y, maintenant, vous avez votre identité et vous pouvez maintenant travailler, mais ça sera dur.
C'est ainsi la vie.
Voilà, mais c'est une chance pour Adam et Ève.
Une lecture de la Bible qu'il faut aussi, Benoît Sagazan, enfin bien, on l'a compris, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais faut le rappeler, le peuple juif connaît l'exil, la déportation, et donc forcément à Babylone, et donc la Bible serait quand même écrite à peu près à ce moment-là, vous allez nous expliquer pourquoi, et du coup, il peut y avoir... voilà, une sorte d'interprétation favorable aux Judéens dans le regard qu'ils posent sur Babylone.
Oui, mais on peut aussi... Enfin,
Rappelez-nous simplement la déportation. Voilà, quelques éléments.
On sait quand même que c'est un drame ce qui se passe, cette déportation. Une troisième aussi. Voilà. Avec les, voilà.
Jérusalem est prise.
C'est un drame parce que Jérusalem s'effondre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ce peuple que ces dieux babyloniens qui découvrent aussi à Babylone, somptueux, avec des temples somptueux, une ville somptueuse,
alors que le temple de Jérusalem
plus fort que Yahvé, quoi. C'est, ils se posent la question, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Non, ça veut dire Dieu est vaincu.
Ben
au
voilà,
fond.
Dieu
la
est vaincu.
La terre aussi n'est plus la nôtre.
Oui, bien sûr.
Le temple est déjà, on n'a plus, c'est ouais, ça.
Et puis ils trouvent en plus une terre qui est confortable parce qu'ils sont, ils y vivent bien en fait. Les familles sont préservées.
Ils sont déportés, mais pas dans une situation dramatique.
Il y a même des fonctionnaires royaux judéens qui trouvent des places même dans l'administration.
Babylonienne,
palatiale.
Il faut dire que c'est une élite qui a été déportée
voilà,
aussi.
Exactement.
Ça, il ne faut pas oublier.
Tout à fait. Exactement. Oui. Tout à fait. Mais quand même, c'est un drame idéologique et un drame spirituel. Oui. Et ils se demandent, mais pourquoi ont-ils, est-ce que les dieux babyloniens est-ils supérieurs à notre Yahvé? Ça, c'est une grande question. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Voilà. Et la réflexion est menée apparemment par plusieurs groupes. Alors, il y a le groupe des prophètes. Il y a un groupe, dit-on, ça c'est que je comprends en lisant Thomas Romer, il y a un groupe autour des élites royales, des scribes, qu'on appelle les deutéronomistes. Et puis il y a un autre groupe qui est aussi réfléchi à tout cela autour des prêtres. Les prêtres du temple.
Sacerdotal.
Et voilà, le groupe, ce qu'on appelle le groupe sacerdotal. Tous ces gens-là réfléchissent et puis ils se disent finalement, est-ce que c'est Dieu qui nous a abandonnés ou c'est nous qui avons été infidèles à Dieu? Et finalement, est-ce que c'est ces dieux babyloniens qui sont supérieurs à Yahvé, ou est-ce que c'est Yahvé qui serait unique et qui serait même utilisé, ces dieux babyloniens? Est-ce que finalement, il n'y a pas qu'un seul dieu unique? Et là, on découvre qu'il y a peut-être un dieu qui est Dieu, tout simplement, et qui peut
Moi, avec mes étudiants, en fait, je dis l'exil, c'est le grand miracle pour les Juifs.
Bien sûr.
S'il n'y avait pas l'exil, il n'y aurait pas la Torah et ni le reste de la Bible.
Parce que ensuite, du coup, ça les pousse à écrire.
Et surtout à une réflexion, comme Benoît vient de dire, une réflexion assez sérieuse
et théologique.
Au niveau de l'évolution de la pensée juive et en même temps chez les prophètes et ensuite dans ces différents courants, yavistes, deutéronomistes, sacerdotales et éloïstes. Sans l'exil, il n'y aurait pas, à mon avis, les cinq livres de la Torah.
Ça, pourquoi écrivent-ils à ce moment-là?
C'est parce qu'il y a une réflexion d'abord lorsqu'ils étaient à Babylone. Ils ont vu, en même temps, sur cette cosmogonie, n'est-ce pas, sur leur conception de la création. Et ils ont rectifié, c'est pour ça, les 11 premiers chapitres de la Genèse viennent de là, mais avec une autre vision, une autre lecture théologique.
Voilà, on croise aussi l'enseignement des écrits babyloniens.
Oui, je crois qu'ils répondent à une crise théologique très forte, mais ils répondent aussi à une crise identitaire. Ah, oui. C'est comment ne pas être dissous dans cette Mésopotamie, parce que les Judéens ne sont pas les seuls à être déportés. Tous les peuples voisins l'ont été, enfin toutes les élites qui se sont rebellées un petit peu, et ils ont disparu. Eux ont réussi, grâce à cette Bible et à cette Torah, à ce Pentateuch, de rester judéens et de devenir juifs.
Parce qu'ils trouvent, Laura Cousin, ils trouvent à Babylone aussi beaucoup d'écrits, beaucoup de mythes, de choses qui vont enrichir. Il y a une sorte de bouillonnement intellectuel déjà à Babylone.
Oui, bien sûr. Ils vont. On sait d'ailleurs qu'il y a un voisinage en fait entre certains écrits bibliques et des mythes mésopotamiens.
Qui ont
On
été
peut
repris.
Par exemple penser, pour l'un des plus célèbres d'entre eux, à celui du déluge, parce qu'on a une première version du déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Mm-hmm. Donc Gilgamesh part. Dans cette histoire, dans une quête d'immortalité, et il va à un moment rencontrer donc un homme très âgé aux confins du monde qui s'appelle Utnapishtim, et donc cette personne va lui raconter son histoire, et donc cette histoire correspond en de nombreux points à celle du déluge biblique et à l'histoire de Noé. Donc effectivement, il y a sûrement un foisonnement à Babylone et en Babylonie qui a sûrement permis de nourrir l'écriture de
Mais
de
toujours
en
donnant une autre vision, un autre regard théologique, une autre interprétation, et plutôt rectifiés, surtout dans leur foi, dans le monothéisme. C'est très important.
Ils abandonnent pour moi, ils abandonnent définitivement le polythéisme. C'est-à-dire que Yahvé n'est pas le dieu supérieur à tous les autres dieux. À travers tous les dieux, un seul dieu unique. Et c'est pour ça que ça ne les gêne pas de reprendre des mythes mésopotamiens pour écrire leur histoire. Ça, c'est pas gênant, par exemple, quand ils écrivent l'histoire de Moïse, de le faire naître comme le roi Sargon. À Babylone.
Sauver des eaux, comme Sargon.
C'est un peu la même histoire, quelque part. Hein, donc c'est plus gênant, parce que Dieu parle partout. Donc, que Yahvé. On peut utiliser donc des mythes d'autres, pour raconter des mythes d'autres religions ou d'autres polythéismes, pour raconter son histoire dans un but théologique qui est.
Ils sont réinvestis.
Qui est celui d'expliquer.
Par
et il y a une autre dimension aussi à ces livres-là, c'est de prôner le retour aussi, le retour à la terre.
Ça veut dire
et cette terre qui est promise.
Oui, ça veut dire Laura Cousin qui a encore beaucoup de traces archéologiques, scripturaires de cette période babylonienne. Vous êtes assyriologue, historienne, vous avez retravaillé justement sur tous ces mythes, tous ces productions intellectuelles.
Alors, ce qui est surtout intéressant, justement, c'est dans la documentation dite de la pratique, donc dans la documentation produite dans la vie de tous les jours, la documentation administrative, où on a donc l'archive de Judéens qui se sont installés. Alors, on ne sait pas très bien où exactement. Leur ville s'appelle Al-Yaroudou. Donc, en acadien, en fait, c'est l'autre nom de Jérusalem. Et donc, ces personnes ont fait partie de l'une des déportations. Et ils se sont installés très certainement aux alentours de Nippour, plutôt dans un paysage rural. Et leurs archives ont été très récemment éditées, il y a de cela moins de 5 ans. Et on voit donc toute leur vie quotidienne, les mariages qui se passent. Alors certains se marient d'ailleurs avec des Babyloniens ou des Babyloniennes. Donc il y a, si on peut dire, un phénomène d'acculturation. Et même ensuite dans l'onomastique, donc c'est-à-dire dans les noms que portent les personnes, certains vont ensuite, enfin les générations qui suivent, vont porter des noms vraiment babyloniens, alors qu'on sait qu'ils sont de la famille, par exemple, de Osée, donc c'est, qui est un nom là plutôt judéen. Donc on a vraiment tous ces témoignages qui sont les plus intéressants pour nous.
Et Frère Mazar, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce mélange de, oui, de populations, cette rencontre des différences.
Ben, il me semble que c'est cette richesse, à mon avis, de la Bible, c'est que ces auteurs-là étaient très intelligents de reprendre ce qui existait donc sur le terrain, avec toute cette leur conception de Dieu, avec aussi de la vie quotidienne babylonienne, mais en même temps en donnant cette juste cette idée géniale, je dirais, de nettoyer de tous ces mythes et de donner une idée de ce Dieu unique qui n'est pas comme le Dieu des Babyloniens, vous voyez.
Oui, il ne faut pas que copier, ils réécrivent avec une nouvelle perspective. Oui. Ils reprennent ces mythes-là, mais ils les réécrivent en même temps.
Oui. C'est-à-dire que du coup, on ne sait plus à qui on peut se fier.
Non, ce n'est pas ça.
Mais il faut dire aussi, sans cet exil-là, sans cette présence des Juifs à Babylone, il n'y aurait pas de Bible, je dirais.
Moi, j'en suis convaincu.
Voilà. Ça, il faut le dire.
Et ça permet de comprendre beaucoup de choses et de relire cet Ancien Testament ou ce Premier Testament autrement. Quand on a cette clé-là,
à l'épreuve de cette déportation.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, même quand vous me parlez sur les événements d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui ont acheté beaucoup de propriétés en Irak. Au nord de l'Irak, au Kurdistan, c'est plein de Juifs. Et il y a même cette communauté de juifs irakiens qui se trouve à Tel Aviv, qui maintenant réclame aussi qu'il y avait leur propriété en Irak. Donc, il me semble que ce n'est pas seulement réclamer une propriété, c'est aussi aller à leur racine, à leur origine, qui vient de Babylone ou du nord de l'Irak, de Ninive notamment, et de toute cette région du Kurdistan irakien où il y avait énormément de villages et villageois juifs qui parlaient l'araméen et qui parlaient aussi le kurde.
Alors, on va faire un bond dans l'histoire parce que vous soulignez bien ce lien entre les Judéens et Babylone et la Mésopotamie. Au début du christianisme, c'est un peu la même chose.
Alors oui, alors la grande tradition, évidemment, c'est l'église assyro-chaldéenne qui s'est enracinée, qui a d'ailleurs pris le nom de patriarcat de Babylone. Ça, il faut bien le dire, justement parce que c'est cette région où on pensait qu'on parlait l'araméen, n'est-ce pas, plus tard.
Tout à fait.
Voilà, c'est à cause de cela, le patriarcat
de Babylone,
catholique,
ouais,
chaldéen, a pris cette dénomination patriarcat de Babylone. Et c'est l'église la plus majoritaire aujourd'hui en Irak. Voilà, pour vous dire qu'ils ont voulu aussi faire poursuivre cet héritage millénaire où l'Église d'Irak vraiment est fière d'appartenir à cette Babylone dont l'histoire en parle, et cette fierté, elle existe dans l'Église chaldéenne aujourd'hui, qui est majoritaire en Irak.
Mais pourtant, au début des premiers chrétiens, Babylone n'est plus aussi rayonnante qu'auparavant.
Non, c'est à cause, à mon avis, de l'Apocalypse qui dénigre totalement cette Babylone. Et en même temps, comme j'ai souligné tout à l'heure, certains psaumes et certains même prophéties contre Babylone et contre Ninive. D'ailleurs, étant moi séminariste à l'époque, même ces chapitres-là, on ne les lisait pas. Ils nous interdisaient, même le parti basse à un moment nous a interdit d'avoir l'Ancien Testament. J'étais le premier en 85, avec la Société biblique du Liban et du Proche-Orient, d'avoir l'autorisation du parti basse à l'époque. Je me rappelle très bien, aux années 80, j'ai obtenu le financement de 5000 Bibles entières, c'est-à-dire Nouveau et Ancien Testament. Et c'était comme quelque chose, un miracle pour l'Irak. Ça veut dire, ça y est, on peut lire nos écrits dans les deux testaments.
Et je pense que dans ces psaumes, peut-être ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il faut revenir aussi. La communauté judéenne vivait tellement bien en Babylonie et en Mésopotamie en général, qu'il fallait les contraindre à revenir aussi à Jérusalem.
Mais aussi, je pense, lorsqu'il y a ce psaume, il dit « Comment je chanterai à Jérusalem, moi qui suis sous les palmiers de Babylone ?» c'est aussi pour dire cet attachement à Jérusalem à travers les siècles. Ça, c'est aussi, il faut le souligner. Et c'est ça aussi qui prend une dimension aujourd'hui dans l'actualité d'Israël. Et c'est vraiment Jérusalem qui est le pôle. D'ailleurs, il est un psaume magnifique. Il dit, on dit partout on est né, mais en toi, chacun est né. Ça veut dire qu'il a un nom particulier pour Jérusalem. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire, on va se dissocier de Babylone et des autres pays.
Et retourner.
Et retourner, justement. Et ça, c'est important, à mon avis. Cette appartenance aussi bien culturelle et religieuse de la ville, qui est plus qu'une ville uniquement, parce qu'elle est ouverte à l'universalité.
Ça, c'est pour Jérusalem. Pour Babylone,
elle n'est pas seulement pour un peuple. Ça, tous les écrits des prophètes insistent là-dessus. Elle est ouverte à toutes les nations.
C'est une ville universelle.
Voilà.
Laura Cousin, donc Babylone, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, Nabucodonosor, et donc cette déportation importante, une ville qui est très rayonnante. Comment Babylone, j'allais dire, s'effondre petit à petit?
Alors, l'effondrement est progressif. Il y a déjà un changement de statut pour Babylone à l'arrivée des Perses, donc qui prennent la ville et le pays en 539 avec Cyrus. Et Babylone, qui était à ce moment-là la capitale politique de la Babylonie et de l'Empire également, qu'avait constitué Nabucodonosor II et qui ensuite a perduré sous ses successeurs, va en fait être, si on peut dire, relégué au rang de capitale régionale de l'Empire perse. Et ce qu'il va se passer également, c'est que les souverains perses ne vont plus s'installer perpétuellement à Babylone. Ils vont plutôt avoir leur palais donc à Suse, à Persépolis, donc plutôt en Iran. Et donc Babylone va être progressivement délaissée par le pouvoir royal. Alexandre le Grand arrive ensuite dans la ville, donc on fait un bond dans le temps, en 331. Il a pour objectif de faire de Babylone la capitale unique de son empire. Alors ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans les sources classiques. Est-ce que c'était véritablement sa volonté? Est-ce qu'il voulait ensuite ne faire de Babylone aussi qu'une capitale parmi d'autres? Bon, ça reste sujet à débat. Parce que donc le souverain meurt quelques années après la prise de la ville. Et ensuite, donc, son empire va être partagé par ses successeurs. Et Babylone va donc progressivement, on va dire, s'essouffler. Il y a quand même toujours une vie donc dans cette cité, qui va même avoir un statut de police, c'est-à-dire de cité, donc sous...
forme d'autonomie.
Voilà, oui, on peut dire ça effectivement, sous les successeurs d'Alexandre. Mais au rang politique, elle ne pèse plus vraiment très lourd. Au niveau religieux, elle joue toujours un rôle important, mais va être aussi supplantée par d'autres villes au sud de la Babylonie, comme par exemple Uruk, dont l'un des temples va vraiment prendre à cette époque beaucoup d'importance. Et de fait, donc, on va dire au 1er siècle après Jésus-Christ, là, Babylone va vraiment, le site va vraiment être abandonné. Et c'est plutôt la fin de cette civilisation.
Mais c'est une cité qui reste dans les mémoires des Irakiens d'aujourd'hui.
Mais... Oui, alors oui, comme j'ai noté tout à l'heure, lorsque, sous le régime de Saddam, il a vraiment voulu donner cet éclat, cette fierté nationale, mais aussi avec une visée politique donc du monde arabe contre les Perses. C'est-à-dire qu'il voulait un peu revenir à la gloire de Babylone pendant la guerre Iran-Irak. C'est pour dire, comme sont les Perses qui ont, n'est-ce pas, détruit Babylone, Nous, aujourd'hui, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire donner à Babylone sa place comme l'a été dans l'histoire. Dans la mémoire des Irakiens, oui, vraiment, nous nous sommes très fiers. D'ailleurs, quand on voit donc, à Berlin, notamment,
au musée de
donc,
Pergame,
au musée de Berlin, ça pour nous, cette grande avenue, si je puis dire, des processions pendant les fêtes religieuses, et en même temps, cette décoration, c'est quelque chose. Et surtout aujourd'hui, les Assyro-Chaldéens, et surtout les Assyriens irakiens, c'est-à-dire les chrétiens, qui ont aussi cette visée nationaliste chrétienne de reprendre cette gloire de Babylonie, de la Syrie. Mmh. Et c'est malheureusement, ça va à l'encontre parce que c'est aussi très, d'abord très réduit, et en même temps c'est dans une pensée assez nationaliste et ça ne
assez
peut
fermé,
pas,
assez ça fermé, pas bon, à, ça ne à correspond cette, pas à cette ville que vous nous avez
à l'universalité
décrit.
Et aussi à la biodiversité, si je puis dire, de l'Irak aujourd'hui, qui est, à mon avis, cette richesse de l'Irak, c'est dans cette diversité-là.
Mmh. On peut revenir, on a parlé un petit peu, Benoît Sagazan, des fouilles, des travaux de recherche. Là, effectivement, il y a ces fouilles, et puis donc ce musée magnifique hein, à Berlin. Il y a beaucoup de traces.
Il y a un très
beau
musée à Bagdad aussi, hein, oui. Qui a ouvert il y a quelques années, là, il y a très peu de temps, il y a 3-4 ans, je crois.
Mmh. Ouais. Et donc, les travaux, vous l'avez dit, ont été interrompus. Malgré tout,
voilà, ils reprennent
vont reprendre.
Maintenant, ils reprennent progressivement. Il y a des missions américaines dans le sud de l'Irak. Il y en a beaucoup, toujours eu un petit peu au Kurdistan, mais elles continuent aussi. Et il y a même un bureau, c'est pas de l'IFPO.
C'est parce que
du côté d'Erbil, en tout cas.
Oui.
C'est parce qu'il y a une surface importante à fouiller ou c'est parce que.
Moi, je pense qu'on est, on n'est jamais à l'abri.
On a toujours su où était Babylone, donc.
Oui, mais
pourquoi
vous savez.
Pourquoi il y a encore des choses à découvrir.
Quand j'ai traversé justement tout ce sud de l'Irak, là, entre Our et Babylone, on voit, c'est un grand désert maintenant qui a été cassé, parce qu'il y avait tous les systèmes d'irrigation ont été rompus par les guerres. Et on voit plein de mottes.
Et ce système daté des temps des Babyloniens,
voilà.
Que l'Irak moderne a repris.
Voilà.
C'est incroyable.
Et chaque motte dans ce paysage correspond à un édifice quasiment. Donc on sait qu'en creusant, on peut trouver encore beaucoup de choses. On n'est jamais à l'abri de retrouver une bibliothèque. Quoi. C'est un peu ce côté fascinant de cette région.
On parle des bibliothèques, il y a aussi un article, un long article sur les bibliothèques.
La bibliothèque de Babylone, qui était elle-même une des plus grandes de l'époque, oui. Mm-hmm.
Toutes ces traces, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Pourtant, on a l'impression de connaître Babylone quand on vous écoute.
On l'espère. Alors déjà, concernant Babylone, donc ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Babylone que l'on a dégagée, c'est celle du premier millénaire. Mais celle du deuxième millénaire, donc, qui est sûrement en dessous. Malheureusement, on ne l'a atteinte qu'à de très rares endroits, notamment parce que la nappe phréatique est trop élevée, donc sur le site,
voilà.
Et aussi
le niveau de la mer, le lieu étant en dessous du niveau de la mer.
C'est ça. Et de fait, aussi autre chose, les bâtiments du premier millénaire étant tellement monumentaux, ça serait sûrement un peu difficile de les démonter également. Donc déjà, dans Babylone, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, les fouilles archéologiques s'étaient surtout concentrées sur les grands monuments, c'est-à-dire les palais royaux, le complexe cultuel, les temples. Mais il y a toute une partie de la ville, donc ce qui concerne notamment les habitations, qui reste assez méconnue. Et maintenant, plus généralement pour la Mésopotamie, on cherche aussi à connaître ce qu'il pouvait y avoir en dehors des grandes villes. Donc des villes moyennes, voire des villages. Donc ça, c'est ce qui intéresse effectivement les archéologues en ce moment.
C'est un travail de fourmi, Benoît.
C'est quand même une cité qu'on a redécouvert assez récemment, quoi, au 19e siècle. Pendant 20 siècles, on l'a presque oubliée. C'est un peu le paradoxe de cette histoire biblique. Là,
on l'a oublié, sauf dans l'imaginaire, malgré tout.
Oui, dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a, imaginez ce petit peuple de Judée qui était coincé entre deux superpuissances culturelles et militaires, qui étaient Babylone et l'Égypte. L'Égypte s'écroule et on l'oublie aussi après Cléopâtre, grosso modo. On oublie Babylone aussi après cette direction et on les redécouvre presque 20 siècles après.
Alors on redécouvre aussi, je ne sais pas si on les a redécouverts vraiment, mais parlez-nous des jardins suspendus, Laura Cousin, parce que ça aussi c'est, alors c'est mythe ou réalité de Babylone.
Alors là c'est toute la question. Concernant les jardins suspendus, à Babylone, nous n'en avons aucune trace, que ça soit
aucune trace archéologique ou de documents
ou épigraphique. Au contraire, des palais royaux de Ninive, où là, on sait qu'il y avait des jardins étagés, qui avaient un système d'irrigation très moderne. Et de fait, nous avons également des représentations de ces jardins de Ninive sur des bas-reliefs qui sont conservés au British Museum.
Alors justement, la nouvelle théorie aujourd'hui, c'est que c'est à Ninive et non pas à Babylone,
c'est
les
ça.
Jardins suspendus.
Effectivement. En fait,
il y a une irrigation qui vient de Khnous que Sennacherib a fait, justement, c'est à peu près plus que 40 kilomètres des sources qui ramènent d'ailleurs le petit fleuve qui se trouve au bord des murailles de l'ancienne Ninive.
Ça veut dire que Babylone tire la couverture à soi, c'est ça?
Alors, oui et non. Donc, en fait, on doit, la première description des jardins suspendus à Babylone au prêtre Bérose, au IVe siècle. Donc, il raconte que Nabucodonosor aurait fait ses jardins pour son épouse. Mais effectivement, donc, on n'en a pas de traces. Et il y a une hypothèse qui a vu le jour dans les années 90, disant que bon, il y a une ancienne confusion entre Ninive et Babylone, Sennacherib et Nabucodonosor, la Syrie et la Babylonie. Alors après, est-ce qu'il n'y avait pas de jardin pour autant à Babylone? Bon, ça c'est un sujet débattu. Il est quand même probable qu'il y avait des jardins. On sait par exemple qu'il y avait un jardinier judéen dans le palais de Babylone, qui d'ailleurs est mentionné dans les archives. Et on sait aussi qu'il y avait ce que l'on appelle des paradis, voilà, qui sont mentionnés dans les archives de certains notables et qui pourraient peut-être être des paradis du palais de Babylone.
Paradis sont ces jardins symboliques.
Simplement jardin, par Deissa en persan, oui, ça veut dire simplement jardin. Et Ganta en araméen, ça veut dire un petit jardin.
Et ces paradis sont quand même aussi des jardins à soigner,
oui,
où on y mêlait des animaux, des végétations. Enfin,
c'est
des jardins aussi symboliques, quoi, très, très, très forts, qui ont frappé l'imaginaire de ceux qui l'ont vu.
De toute cette richesse intellectuelle, économique aussi, Ephrem Hazar, finalement, ça a nourri l'imaginaire, mais aussi ça nourrit l'histoire des hommes.
Ça nourrit toujours, vous savez, la nostalgie vers le passé. Et qu'on dit que le paradis serait derrière nous, alors que moi je dis le paradis est devant nous à le cultiver. C'est ça, c'est notre monde qui est à cultiver. Mais c'est vrai, on a besoin, à mon avis, de toujours de ce mythe ou de la mythologie pour justement que ça résonne dans la mémoire de tout être humain, en fait.
Encore plus aujourd'hui, quand cette terre d'Irak souffre.
Mais absolument, et c'est ça peut-être le retour, non pas à l'archéologie, mais le retour à cet enracinement culturel de l'histoire de l'Irak pourrait, à mon avis, regrouper tous les Irakiens, arabes, persans ou chiites et sunnites. Mais aujourd'hui, comme on est pris par la guerre, on a oublié aussi cette appartenance à cet enracinement culturel.
Voilà, ne revenons pas à Babylone, mais n'oublions pas nos racines. C'est un peu ça. Merci tous les trois pour cette découverte de Babylone depuis la nuit des temps. Benoît Sagazan, Laura Cousin et Ephrem Hazar. Bah, pour prolonger l'émission, bien sûr, il faut lire le monde de la Bible avec tout le dossier autour de Babylone, mythique, historique et biblique. Et puis on trouve aussi plein d'autres choses. Notamment, j'étais aussi intrigué par la chapelle Notre-Dame des Sans-Logis et de tout le monde à Noisy-le-Grand.
Mmh. C'est qui a été visité par le président de la République récemment, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, qui a été créé par
Par Athédée Carmon, par le fondateur, voilà, le père Joseph.
Voilà, le père Joseph. Qui avait créé dans les années 50 cette
chapelle. Très, très touchante.
On peut suivre aussi dans le numéro du Monde de la Bible, bien simplement le repas à Emmaüs peint par le Caravage.
Oui, est-ce que je peux permettre juste une petite insiste, qui fait l'objet d'une série télévisée avec KTO chaque samedi et rediffusée sur les centres sociaux qui s'appelle Pictura.
Et n'oublions pas Rue de Babylone à Paris quand même.
Voilà, Rue de Babylone. Et puis aussi votre association.
Oui, Entre deux rives, viens, je fais appel de nouveau pour nous aider.
Merci à Pierre Samenos qui était à la régie. On se retrouve la semaine prochaine.